Hector, Hugh Monroe, Dee Sackey, Toby Maury. C'était une froide après-midi, délavée par la pluie, de la fin du mois d'août. Cette saison mal définie, où les perdrix sont encore en sécurité ou déjà en chambre froide, et où il n'y a rien à chasser, à moins d'être bordé au nord par le canal de Bristol, auquel cas on peut légalement poursuivre au galop de gras cerfs rouges. La house party de Lady Blemley n'était pas bordée au nord par le canal de Bristol, aussi tous ses invités étaient-ils cet après-midi-là réunis autour de la table du thé. Et malgré la vacuité de la saison et la banalité de l'occasion, il n'y avait dans la compagnie aucune trace de cette nervosité lasse qui traduit une horreur du piano mécanique et une sourde envie de bridge aux enchères. L'attention non déguisée et stupéfaite du groupe entier était fixée sur l'humble personnalité négative de M. Cornelius Appin. De tous ses invités, c'était celui qui était venu chez Lady Blemley avec la réputation la plus vague. Quelqu'un avait dit qu'il était intelligent, et son invitation était due à l'espoir modéré de la part de son hôtesse qu'une parcelle au moins de son intelligence contribuerait à divertir toute l'assemblée. Ce n'était ni un homme d'esprit, ni une force hypnotique, ni un adepte du théâtre amateur. Son extérieur ne suggérait pas non plus le genre d'homme à qui les femmes sont prêtes à pardonner une dose généreuse de déficience mentale. Or, voici qu'il prétendait avoir lancé sur le monde une découverte auprès de laquelle l'invention de la poudre, de l'imprimerie et de la locomotion à vapeur n'était que des broutilles. La science avait accompli des pas de géant dans de nombreuses directions au cours des récentes décennies, mais cette dernière nouveauté semblait relever du domaine du miracle plutôt que du progrès scientifique. « Et vous prétendez vraiment nous faire croire, disait Sir Wilfrid, que vous avez découvert le moyen d'instruire les animaux dans l'art de la parole humaine, et que ce cher vieux Toby Maury a été votre premier succès ?»« C'est un problème sur lequel je travaille depuis 17 ans, dit M. Appin. « Mais c'est seulement au cours des 8 ou 9 derniers mois que j'ai été récompensé par les premières lueurs de succès. Bien entendu, j'ai fait des expériences sur des milliers d'animaux, mais ces derniers temps uniquement sur des chats. Ces admirables créatures qui se sont si merveilleusement assimilées à notre civilisation, tout en conservant leurs instincts sauvages hautement développés. Ici ou là, parmi les chats, on tombe sur un intellect d'une éminente supériorité, tout comme cela arrive au sein de la communauté des humains. Et lorsque j'ai fait la connaissance de Toby Maury, voici une semaine, j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un super chat d'une intelligence extraordinaire. J'avais beaucoup progressé sur la voie du succès lors de mes récentes expériences. Avec Toby Maury, comme vous l'appelez, j'ai atteint le but. » M. Appin avait conclu cette remarquable déclaration d'une voix qu'il s'efforçait de dépouiller de toute intonation triomphaliste. « Personne ne dit zut. »« Et vous voulez dire, demanda Miss Rasker, après une légère pause, que vous avez appris à Toby Maury, à formuler et à comprendre des phrases monosyllabiques faciles ?»« Ma chère Miss Rasker, fit patiemment le thaumaturge, on utilise ces méthodes rudimentaires avec les petits-enfants, les sauvages et les adultes arriérés. Mais une fois le problème résolu de la mise en route, avec un animal à l'intelligence hautement développée, on peut ignorer ces méthodes bancales. Toby Maury maîtrise parfaitement notre langue. » Cette fois, Clovis dit distinctement « Super zut !» Sir Wilfrid fut plus poli, mais n'en demeurait pas moins sceptique. « Ne vaudrait-il pas mieux faire venir le chat pour en juger par nous-mêmes » suggéra Lady Blemley. Sir Wilfrid partit à la recherche de l'animal, et la compagnie s'installa languissamment, s'attendant à assister à une exhibition de ventriloquisme de salon. Une minute à peine venait de s'écouler, que Sir Wilfrid était déjà de retour, blanc comme un linge, sous son teint bronzé, et les yeux dilatés par l'excitation. « Dieu me damne, mais c'est vrai !» Son agitation était indéniablement authentique, et ses auditeurs bondirent de leur siège avec un frisson d'intérêt renouvelé. S'effondrant dans un fauteuil, il poursuivit en haletant « Je l'ai trouvé qui somnolait dans le fumoir et l'ai appelé à venir goûter. » Il m'a regardé en clignant des yeux, comme il fait d'habitude, et je lui ai dit « Allons, Tobermory, ne nous fais pas languir. » Et Dieu me pardonne, il a déclaré d'une voix traînante et la plus horriblement naturelle qu'il viendrait quand ça lui plairait. J'ai failli sauter au plafond. À peine avait prêché devant un auditoire absolument incrédule, la déclaration de Sir Wilfrid emporta une conviction immédiate. Un brouhaha d'exclamations de surprise, digne de Babel, éclata, au sein duquel le savant demeura assis, sans mot dire, goûtant les prémices de sa stupéfiante découverte. Au beau milieu de ces clameurs, Tobermory entra dans la pièce et se dirigea à pas feutrés et avec une insouciance calculée vers le groupe assis autour de la table du thé. Un soudain silence embarrassé et contraint tomba sur la compagnie. En fait, il semblait qu'on fût légèrement gêné de traiter d'égal à égal un chat domestique aux capacités mentales reconnues. « Veux-tu boire un peu de lait, Tobermory ?» demanda Lady Blemley d'une voix plutôt tendue. « Pourquoi pas ?» fut la réponse, articulée d'un ton d'indifférence tranquille. Un frisson d'enthousiasme contenu parcourut les auditeurs, et Lady Blemley fut bien excusable d'emplir la soucoupe de lait d'une main mal assurée. « Je crains d'en avoir versé une bonne partie, » dit-elle d'un air contrit. « Après tout, ce n'est pas mon tapis, » fut la réplique de Tobermory. Un autre silence tomba sur le groupe, puis Miss Resker, de la manière typique des dames de charité, demanda si le langage des humains avait été difficile à apprendre. Tobermory la regarda bien en face pendant un moment, puis fixa son regard sur quelques points situés à mi-distance de l'horizon. Il était évident que les questions assommantes ne faisaient pas partie de sa conception du monde. « Que pensez-vous de l'intelligence humaine ?» demanda maladroitement Mavis Pellington. « De l'intelligence de qui en particulier ?» demanda froidement Tobermory. « Eh bien, de la mienne, par exemple, » dit Mavis avec un rire timide. « Vous me mettez dans une situation embarrassante, » dit Tobermory, dont le ton et l'attitude ne suggéraient pas la moindre trace d'embarras. Lorsqu'il fut question de vous inclure dans cette house party, Sir Wilfrid protesta que vous étiez la femme la plus idiote de sa connaissance, et qu'il y avait une grande différence entre l'hospitalité et le traitement des débiles mentaux. Lady Blemley répliqua que c'était précisément votre absence d'intelligence qui vous avait mérité votre invitation, attendu que vous étiez la seule personne dont elle se souvint, qui serait assez stupide pour acheter leur vieille automobile. Vous savez, celle qu'on appelle l'envie de Sisyphe, parce qu'elle monte très facilement les côtes si on la pousse. Les protestations de Lady Blemley eussent été plus probantes si elle n'avait incidemment suggéré à Mavis, pas plus tard que ce matin, que l'automobile en question était exactement ce qu'il lui fallait dans sa maison du Devonshire. Le major Barfield plongea tête en avant pour effectuer une diversion. « Que faut-il penser de vos incartades avec la minette écaille de tortue là-haut dans les écuries, hein ?» Il n'eut pas plus tôt parlé que tous réalisèrent sa gaffe. « Il est inhabituel de discuter ces problèmes en public, » dit Tobermory d'un ton glacial. « À en juger par une légère observation de votre conduite depuis que vous êtes arrivé dans cette maison, j'imagine que vous pourriez être gêné si je portais la conversation sur vos propres petites affaires. » La panique qui suivit ne se limita pas au major. « Voudrais-tu aller voir si la cuisinière a préparé ton dîner ?» suggéra précipitamment Lady Blemley, faisant semblant d'oublier que le repas de Tobermory n'était prévu que dans 2 heures. « Non, merci, pas si tôt après mon goûter. Je ne souhaite pas mourir d'indigestion. » On dit souvent en anglais que les charles neuf vivent, vous savez, dit chaleureusement Sir Wilfrid. C'est possible, répondit Tobermory, mais un seul fois. Adélaïde, dit Mrs. Cornett, voulez-vous encourager ce chat à sortir d'ici pour aller papoter sur notre compte dans la salle de service? La panique était en effet devenue générale. Une étroite balustrade ornementale courait devant la plupart des fenêtres des chambres à coucher du manoir de Towers, et on se souvint avec consternation qu'elle était à toute heure une des promenades favorites de Tobermory, d'où il pouvait observer les pigeons, et Dieu sait quoi d'autre encore. S'il avait l'intention de réveiller ses souvenirs, maintenant que sa franchise n'avait plus de bornes, l'effet serait plus que déconcertant. Mrs. Cornett, qui passait beaucoup de temps à sa table de toilette et dont le teint était réputé pour sa propension nomade bien que ponctuelle, paraissait aussi mal à l'aise que le major. Miss Crowan, qui écrivait des poèmes férocement sensuels et menait une vie irréprochable, manifesta une simple irritation. Si vous êtes méthodique et vertueuse en privé, vous ne souhaitez pas nécessairement que tout le monde le sache. Bertie Van Tahn, qui était si dépravé à 17 ans qu'il avait depuis longtemps renoncé à devenir encore plus vicieux, prit une couleur terne de gardénia blanc. Mais il ne commit pas l'erreur de se précipiter hors de la pièce, comme le fit Odo Finsbury, un jeune gentleman dont on croyait qu'il étudiait en vue d'entrer dans les ordres, et qui était peut-être troublé à l'idée d'entendre des médisances impliquant d'autres personnes. Clovis eut la présence d'esprit de maintenir un extérieur calme. Il calculait en son fort intérieur combien de temps il lui faudrait pour se procurer une boîte de souris de luxe par l'intermédiaire de l'agence Exchange & Mart pour acheter le silence du chat. Même dans une situation aussi délicate que celle-ci, Miss Raskin ne put supporter de rester trop longtemps à l'arrière-plan. « Quelle idée ai-je eue de venir ici ? » demanda-t-elle d'un ton dramatique. Tobermory sauta immédiatement sur cette occasion. « Si j'en juge, parce que vous avez dit hier à Mrs. Cornett sur la pelouse du jeu du croquet, vous étiez à la recherche de nourriture. Vous avez décrit les Blemley comme les gens les plus ennuyeux de votre connaissance chez qui séjourner. Mais, avez-vous ajouté, ils avaient l'intelligence d'employer une cuisinière de premier ordre, faute de quoi ils auraient du mal à réinviter qui que ce soit une deuxième fois. « Il n'y a pas là un mot de vrai. J'en appelle à Mrs. Cornett !» s'exclama Agnès, toute déconfite. « Mrs. Cornett a répété votre remarque à Bertie Van Tahn, continua Tobermory, et ajouté « Cette femme est une vraie marcheuse de la faim. Elle irait n'importe où pour 4 bons repas par jour. » Et Bertie Van Tahn a dit « À ce point, la chronique Dieu merci s'interrompit. » Tobermory venait d'entrevoir le gros matou jaune du recteur qui traversait le massif d'arbustes en direction de l'aile des écuries. Comme un éclair, il disparut par la porte-fenêtre ouverte. Après la disparition de son trop brillant élève, Cornelius Appin se trouva assiégé d'un ouragan d'amers reproches, de questions inquiètes et de supplications effrayées. C'est à lui qu'incombait la responsabilité de cette situation, et il lui revenait d'agir pour empêcher qu'elle ne dégénère. Tobermory pouvait-il transmettre son dangereux don à d'autres chats ? Fut la première question à laquelle il dut répondre. Il était possible, répondit-il, qu'il ait pu initier son ami intime, la minette des écuries, à son nouveau talent, mais il était peu probable que son enseignement eût dépassé le stade des rudiments. En ce cas, dit Mrs. Cornett, Tobermory est peut-être un chat de grande valeur et un adorable animal de compagnie, mais je suis sûr, Adélaïde, que lui et la chatte des écuries doivent être éliminés sans délai. Vous ne supposez pas que j'ai trouvé plaisant ce dernier quart d'heure, j'espère, dit Lady Blemley avec amertume. Mon mari et moi-même aimons beaucoup Tobermory, ou du moins nous l'aimions beaucoup, jusqu'à ce que cet horrible talent lui ait été imparti. Mais il va de soi que désormais la seule chose à faire est de le faire abattre dès que possible. On pourrait mettre un peu de strychnine dans les restes qui lui sont toujours donnés à l'heure du dîner, dit Sir Wilfrid. Et je vais aller moi-même noyer la chatte des écuries. Le cocher sera furieux de perdre son animal, mais je lui dirai qu'une forme très contagieuse de la gale s'est déclarée chez les deux chats, et que nous craignons qu'elle ne se propage au chenil. « Mais quid de ma grande découverte ? » s'exclama M. Appin, indigné. « Après toutes mes années de recherche et d'expérimentation, vous pouvez aller poursuivre vos expériences sur les vaches Shorthorn de la ferme, qui ne risque pas d'échapper à notre contrôle, dit Mrs. Cornett, ou sur les éléphants des jardins zoologiques. On les dit très intelligents, et l'avantage avec eux est qu'ils ne risquent pas de se glisser dans nos chambres, sous les chaises, et ainsi de suite. Un archange radieux proclamant le millénium, puis découvrant qu'il tombait impardonnablement le même jour que les régates de Henley, et qu'il devait être remis sine die, n'eût guère été plus déconfit que Cornelius Appin, devant l'accueil réservé à son merveilleux exploit. Cependant, il avait contre lui l'opinion publique, et en fait, si une consultation générale avait été organisée sur le sujet, il est probable qu'une forte minorité de voix eût souhaité que lui-même dût recevoir une dose de strychnine. Des horaires de train défectueux et un désir inquiet de connaître la fin de l'incident empêchèrent une dispersion immédiate de la compagnie. Mais le dîner ce soir-là ne fut pas un succès mondain. Sir Wilfrid avait eu du fil à retordre avec la chatte des écuries et, subséquemment, avec le cocher. Agnès Resker limita avec ostentation son repas à une tranche de toast sans beurre dans lequel elle mordit comme si c'était un ennemi personnel, tandis que Mavis Pellington observa un silence vindicatif pendant tout le repas. Lady Blemley maintint un flot ininterrompu de ce qu'elle espérait être une conversation, mais son attention était fixée sur l'embrasure de la porte. Une assiettée savamment dosée de restes de poisson était préparée sur le buffet, mais les diverses sortes de desserts avaient été avalés sans que Tobermory apparût dans la salle à manger ou dans la cuisine. Ce dîner si sépulcral avait été joyeux en comparaison de la veillée ultérieure dans le fumoir. Le fait de manger et de boire avait au moins fourni une distraction et masqué l'embarras de tous. Le bridge était hors de question compte tenu de la tension générale des nerfs et des humeurs. Et après que Odo Finsbury eut joué une interprétation lugubre de Mélisande dans la forêt devant un auditoire de marbre, la musique fut tacitement évitée. À 11 heures, les domestiques allèrent se coucher, après avoir annoncé que la petite fenêtre de l'office avait été laissée ouverte, comme de coutume, pour l'usage privé de Tobermory. Les invités lurent avec application toute la pile de magazines disponibles et se rabattirent peu à peu sur la Badminton Library et les volumes reliés de Punch. Lady Blemley fit des visites répétées à l'office, revenant chaque fois avec un air de dépression alanguie qui prévenait toute question. À 2 heures, Clovis rompit le silence prédominant. « Il ne viendra pas ce soir. Il est probablement à l'heure qu'il est dans le bureau du journal local, en train de dicter le premier épisode de ses mémoires. Le livre de Mrs. comment s'appelle-t-elle, n'y sera pas. Ce sera l'événement du jour. » Ayant apporté sa contribution à la gaieté générale, Clovis partit se coucher. À intervalles éloignés, les divers membres de la house party suivirent son exemple. Les domestiques qui apportaient les tasses de thé matinales firent la même déclaration en réponse à une question uniforme. Tobermory n'était pas rentré. Le petit déjeuner fut, si possible, une cérémonie encore plus désagréable que n'avait été le dîner. Mais avant sa conclusion, la situation fut résolue. Le cadavre de Tobermory fut apporté du massif d'arbustes où un jardinier venait de le découvrir. Au vu des morsures à sa gorge et des touffes de poils jaunes accrochées à ses griffes, il était patent qu'il avait succombé dans un combat inégal avec le gros tome du presbytère. Pour midi, la plupart des invités avaient quitté le manoir de Towers, et après le déjeuner, Lady Blemley avait suffisamment recouvré ses esprits pour écrire une lettre extrêmement acrimonieuse au presbytère, déplorant la perte de son précieux animal de compagnie. Tobermory avait été l'unique élève brillant d'Appin, et il n'était pas destiné à avoir un successeur. Quelques semaines plus tard, un éléphant du jardin zoologique de Dresde, qui n'avait jamais auparavant montré de signe d'irritabilité, s'était échappé de son enclos et avait oxy un Anglais qui avait semblé le taquiner. Le nom de la victime fut diversement mentionné dans les journaux comme étant Oppin ou Eppelin, mais son prénom Cornelius fut fidèlement transcrit. S'il essayait de faire apprendre à la pauvre bête les verbes irréguliers allemands, dit Clovis, il n'a eu que ce qu'il méritait.